je mocht die onbewoond eiland helemaal niet. Die waren dood.
Voilà. Ik zou ook zo zijn.
Wij zijn ook, ik heb ook dat gevoel.
Ja.
Maar ik merk dat hij is heel veel maar nadat we een paar avonds om het tweede geweest, dan heeft hij niet mensen op hem.
Ja.
Dus ik weet dat hij mij graag ziet, dat is op een andere manier.
Ja, maar dat kan ook wel nuttig zijn, want bijvoorbeeld ik ben graag alleen. Maar vandaar ook, ik was naar een feestje gegaan en zo. Ik ga wel graag even weg om nieuwe ideeën op te doen. En met die nieuwe ideeën kom je dan weer naar huis, kan je over dromen, kan je mee bezig zijn. Dat kan een mooie film zijn, dat kan dus een kunstentoonstelling of een gezellige babbel zoals nu. Daar zit heel veel in wat er hier gezegd wordt. Je kan daar eens over nadenken. Je wordt niet steriel met anderen. Zie je?
Ja.
En als je dan zegt, ik ga nu eens lekker wat pasta maken bijvoorbeeld, met dit en dat wat ik graag eet. En echt kunnen appreciëren dat, bijvoorbeeld voor je mama, die zal waarschijnlijk heel wat souvenirs hebben waaraan ze terugdenkt. En ik kan me best voorstellen dat zij heeft dat geprobeerd in relatie, want iedereen probeert dat. Ze zeggen, ja, je moet toch niet alleen blijven, en alleen blijven is toch maar alleen. Maar als je echt de gevoelens gehad hebt voor iemand, denk ik dat het heel erg moeilijk is. Enfin, je hebt er tijd voor nodig.
Ja.
En als je dat niet direct ziet zitten.
Nu, intussen, in het begin vond ik dat erg. Ik heb echt zo'n mama, ik blijf niet alleen. En, die is er nu 59 geworden.
Je mama?
En, ja.
Oh.
Mijn mama blijft niet alleen. En, 58 is het, dus sorry, 58, want het is van 49. Dus in november is ze 58 geworden. Maar nu merk ik intussen, ze is gelukkig. Zo, dan heb ik iets van, nu laat ik haar gerust. Ik laat haar gewoon naar
de zal nu haar kleinkinderen hebben. En als je een man hebt, moet je met kleinkinderen zitten. Nou, als je een nieuwe man heeft, omdat er de kinderen in de weg en
dat is zo. Ja,
maar ze heeft daar gelijk.
Ze maakt dat groot.
Ja. Ze heeft daar gelijk. En als zij van haar kleinkinderen wil profiteren, moet ze zeker geen man hebben. Ja, ik zeg niet, nu kun je uitgaan, dan kun je
gaan
drinken of een koffie drinken.
Ze gaan uit met vrienden, maar ze heeft geen relatie met
mannen. Dat kan niet.
Ze heeft veel te veel, want ze gaat soms op vakantie met haar vrienden. Soms alleen, soms met vrienden.
Voilà.
Soms,
ik kan geen verbeteren
met een man. Ik heb hem zo.
Zou dat ook gaan? Zou
dat ook gaan?
Ja.
Moeilijk hoor. Ja. Want ik heb een Sjaak genomen met twee kinderen.
Jij? Jij bent
een probleem, maar ik denk ook
vrouw. Jij bent de vrouw, hè?
Als ik, ja.
Ah, pas op.
Als ik alleen
van
dat zeker met vier kinderen, ik maak
me geen illusies. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, moet je ook geen
illusies maken. Misschien als ze volwassen zijn met huis uit, maar de broers zijn nooit. En dan moet ik nu morgen alleen
van.
Kan ik
nu
nooit
alleen. Ik wil niet teleurstellen, maar ik denk dat het...
Dat vind ik heel goed.
Niet zelfs.
Dan denk ik wel aan de jongen van...
Ah ja.
Je pense que les gens aiment avoir un sentiment de sécurité, mais ceux qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, peut-être n'aiment pas les caméras. Tant de caméras en fait qui enregistrent tout ce qui se passe. Il y a déjà tant de caméras, il y a peut-être encore des caméras qui sont plus rapides. Des systèmes de caméras, par exemple, un caméra qui est statique, un autre qui bouge de gauche à droite. et de droite à gauche. Ceci démontre comment quelqu'un d'autre, en fait, me surveille. Donc, vraiment, c'est le grand frère ici qui me surveille. Donc, moi, je pense que je surveille des autres, mais il y a des autres qui me surveillent, moi. Alors, bienvenue à la deuxième partie de cette soirée. Nous avons ici le régisseur Manu Lukács et nous allons regarder son film Faceless d'ici quelques minutes. Avant de lancer la deuxième partie du programme, vous aurez sans doute vu qu'il y a différents thèmes en fait qui nourrissent ce programme. Et il y a un thème que j'oublie souvent et qui justement se réfère à l'utilisation de la vidéo. Mais pour retrouver ce thème, oui, c'est ça. Donc, lisez, santé, cela parle de la relation entre donc le film qu'on regarde et la personne qui fait le film, le régisseur. Donc, en fait, le film, les émotions. L'interaction des émotions, la question est celle de savoir comment, en fait, procéder pour, en fait, faire bouger les gens, pour les faire bouger au sens physique du terme, mais aussi pour faire bouger leurs sentiments. Nous avons des ateliers également qui se focalisent sur la question de savoir est-ce qu'en tant que réalisateur de films, de cinéma, en fait, on peut approcher tout cela. Et donc ici, derrière nous, vous voyez certainement aussi que là aussi, nous sommes déjà en train de mettre en pratique cette relation entre le film d'une part et les interactions avec le public et finalement, pour aller encore bien plus loin, donc l'éducation politique, sociale, l'utilisation de la vidéo comme instrument afin d'atteindre certains buts politiques et sociologiques. Bien, donc il s'agit ici vraiment d'une question contemporaine. On vit dans une société, dans une situation où l'observation est constante, où il y a de plus en plus de caméras vidéo, bien sûr, on dit, pour assurer la sécurité des gens. Cela est devenu une chose importante. Mais la question est celle de savoir dans quelle mesure sommes-nous prêts à concéder une partie de notre vie privée. Donc de faire des concessions sur notre vie en tant qu'individu, dans quelle mesure voulons-nous bien que nous soyons surveillés? Et en fait, c'est sûr que lorsqu'on sait qu'on est surveillé, il y a des choses qui vont commencer à bouger en nous. Lorsqu'on sait que, par exemple, la référence de la normalité.
Mm-hmm.
Alors, certaines choses pratiques concernant donc le film. Ce soir, nous allons vous montrer, vous présenter la version en anglais. Mais il y a une possibilité de voir des sous-titres en français. Et en fait, ce film en fait sera également présenté en français dans la semaine en fait du 12 décembre et sera présenté en fait en français dans la maison culturelle de Saint-Gilles. Donc là, vous allez pouvoir apprécier le film une deuxième fois. Donc, juste avant le film, nous allons peut-être marquer une petite pause, mais je voudrais d'ores et déjà vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais également remercier le public de prêter attention à ce film. Je passe maintenant la parole à Manu. Ok, donc je me présente comme régisseur. Il y a dix ans, merci parce que sinon nous n'entendons rien. Donc il y a 10 ans, j'ai eu vraiment donc une expérience choc à constater tout d'un coup que l'on vivait dans un contexte constamment surveillé par des caméras. Surtout au Royaume-Uni, il y a beaucoup de caméras qui ont pour but, dit-on, d'augmenter le sentiment de sécurité. Donc, il y a 10 ans, en fait, les grandes villes en Royaume-Uni étaient déjà surveillées toutes par des caméras. Une fois quittées la ville, les caméras disparaissaient. Mais au centre de la ville, il y avait des caméras partout. Et le bourgmestre de Londres, donc de la grande ville de Londres, en fait, aimait bien, en fait, être photographié, entouré par les caméras qui démontraient que Londres avait pour aspiration d'être une ville à grande sécurité. Je crois qu'on peut tous s'imaginer des situations où des caméras vidéo sont justifiées. Pour reprendre l'exemple du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est utilisée les caméras en fait semblent être utilisées afin de, entre guillemets, résoudre toute tension dans la société. Fin de citation. Par exemple, que ce soit un panneau le long de la route, vous voyez par exemple un pictogramme d'une caméra. C'est la façon dont l'industrie répond. Par exemple, le pictogramme dit rester vigilant, donc des caméras de surveillance vous surveillent. La traduction donc des caméras de surveillance, bon, c'est aussi une question donc sémantique parce que on nous parle toujours de caméras de surveillance, mais ceux qui les produisent, les producteurs, parlent de caméras de sécurité. De sécurité. Oui, donc parfois, lorsque des discussions sont lancées concernant les caméras, et faut-il avoir pas de caméras, on va vous répondre qu'il ne faut pas avoir pas de caméras. Quelles sont là, qui sont là justement pour vous protéger? C'est l'argument qui est utilisé. Dans toutes circonstances. Et donc, par exemple, quand on a envie de fumer et on ne peut pas fumer, on va dire, faites attention, il y a des caméras. Par exemple, lorsque on a envie donc d'uriner là où ce n'est pas permis, pareil. Ou bien également des caméras qui sont utilisées dans les écoles et on dit aux élèves, faites attention, ne harcelez pas votre voisin parce qu'il y a des caméras qui vous surveillent et vous pourrez facilement être identifié. Donc la question qui surgit est celle de savoir est-ce que la surveillance est vraiment la méthode pour essayer de rendre la société meilleure, pour donc lui donner un niveau donc de vie supérieur. Voilà de nouveau ici des caméras de surveillance donc surveillant toute une plaine en Grande-Bretagne. La loi, en fait, dit que vous n'avez pas le droit, par exemple, des enfants, par exemple, qui jouent sur des plaines de jeu, dans des plaines de jeu. Eh bien, donc la loi dit cela. Si donc, par exemple, je veux prendre une photo de mon fils qui joue dans une plaine de jeu, eh bien, je ne peux pas le faire normalement. Ceci, c'est pour arrêter ou pour éviter que des pédophiles puissent de cette façon repérer les enfants. Voilà donc les réalités que j'essaye de vous montrer pour vous expliquer comment, en fait, il y a toute une réglementation qui règle la prise de photos sur des ou dans des lieux publics. Et donc, avec beaucoup de vigilance, on fait en sorte que cette loi soit appliquée. Il y a donc en Grande-Bretagne, depuis 10 ans, une terrible augmentation, aussi bien au niveau de la quantité qu'au niveau de la qualité des caméras de surveillance. Je viens de vous montrer justement une photo donc d'une caméra volante. Et le succès de ces caméras, donc tous azimuts, est bien prouvé aujourd'hui. N'importe où vous allez, que ce soit en Thaïlande, donc en Inde, en Arabie Saoudite, il y a des caméras partout. Et quand on commence donc à prendre conscience de cela, on se dit que, en fait, il est intéressant de commencer à réfléchir à cela. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée, en fait, de faire un film. Vous êtes filmé, je ne sais pas combien de fois par jour. Et en fait, j'ai donc décidé de faire ce film. Et je dois vous dire que, en fait, faire ce film nous a parfois fait sourire. Mais en 2001, la directive européenne concernant la protection des données a été appliqué au niveau de la législation de la Grande-Bretagne. Et en fait, cette loi dit en fait que vous avez le droit de donc approcher toute information recueillie sur vous par d'autres organisations et associations. Et dans cette loi, réglementation, en fait, on voit également l'établissement d'un équilibre entre ceux qui rassemblent les données sur vous et vous en tant que personne privée. Par exemple, au niveau médical, par exemple, toutes les données qui vous concernent, par exemple, quel est votre travail, quel est votre âge, de quel sexe êtes-vous, de quel genre êtes-vous, combien gagnez-vous, est-ce que vous avez donc une assurance hospitalisation. Donc, il était important que ces données soient protégées. Mais il faut savoir que cette directive donc de l'Union européenne a été ratifiée, je crois, par tous les États membres, donc d'une façon ou d'une autre. Et je ne sais pas, en fait, quelle est la situation en Belgique. Est-ce que en Belgique, par exemple, vous avez également le droit de demander une copie de toutes vos données qui sont rassemblées sur vous? Par exemple, dans le domaine médical. Mm. Mais donc pour cela, pour mettre cela en pratique, je vais d'abord identifier la caméra qui me surveille, ensuite retrouver le propriétaire de la caméra et dire voilà, donc en application de cette directive européenne, je vous demande de me faire parvenir une copie de toute l'information me concernant. Voilà, donc une lettre en fait de ce type envoyée serait par exemple une lettre comme vous voyez. Il faut également inclure une photo de vous-même pour que vous puissiez être identifié. Et parfois, on m'a également demandé donc de mettre à disposition une carte d'identité. Et donc, l'opérateur dispose de 40 jours, tout au plus, pour répondre à votre demande. Voilà, donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu ceci. Mais ce qui s'est passé, c'est que toutes les autres personnes, en fait, avaient donc perdu leur visage. Ceci était dû au fait que cette directive donc européenne stipule également que s'il y a d'autres personnes qui sont photographiées donc filmées dans la même scène, eh bien il faut protéger la vie privée de ces autres personnes, ce qui donne lieu alors à ce type d'image. De nouveau, en fait, cela faisait surgir en moi beaucoup d'autres questions. À savoir, par exemple, est-ce que suite donc au fait qu'on cache leur visage, est-ce qu'on peut maintenant en déduire que ces gens ne sont plus identifiables? Voilà. De cette façon, en fait, j'ai procédé pour faire ce film. Et savez-vous, les opérateurs qui doivent vous fournir toutes ces données ne peuvent vous demander que 10 euros. Donc, j'ai alors, suite à cela, aussi préparé un manifeste, un document, donc à l'attention de tous les gens qui veulent faire un film de ce type. Donc il y a aussi des lieux publics où on n'a pas le droit donc d'arriver avec une caméra, ou du moins on ne peut pas filmer. Tout ceci est coulé dans des textes de loi. Ensuite, on détermine également comment rendre invisibles les personnes filmées. Donc, tous ceux qui opèrent donc, ou donc utilisent des caméras doivent respecter toutes ces règles et faire en sorte que les personnes filmées puissent être rendues à tout moment non identifiables. Et vous, si vous demandez vos données, vous pouvez être donc invité à payer un maximum de 10 euros. Oui, donc, suite à ma demande, j'ai pu constater que cela fonctionne, que oui, en effet, j'avais reçu au moins une réponse. Ensuite, je me suis dit, je vais faire donc un film, une sorte d'histoire fictive basée sur, bien sûr, la réalité, donc une sorte de documentaire fictif, parce que un tel film pourrait jeter une nouvelle image sur les caméras de sécurité et sur leur rôle dans la société. Donc, j'ai écrit un script appelé Faceless, donc sans visage. Et en fait, la protagoniste, c'est donc une femme qui vit dans un monde sans visage. Et donc, un jour, elle se réveille avec un visage et elle veut savoir ce qui lui est arrivé, alors que tous les autres n'ont pas de visage. Et elle, elle a un visage.
Voilà.
Et donc, une fois qu'elle comprend que, en fait, avoir un visage, c'est quelque chose qui lui était arrivé il y a longtemps. Donc, c'est ainsi que j'ai, en fait, travaillé pendant 4 ou 5 ans. Je suis passée par tout un processus. C'est pas que je veux vous décourager, mais ça n'a pas été aussi facile que cela. J'ai reçu quand même 85% de réponses négatives, donc suite à la réalisation de mon film. Et vous allez voir quelques exemples du type de réponses négatives. Comme par exemple ici, c'est donc un opérateur d'une caméra de surveillance qui me dit que Oui, donc par exemple, cette lettre, par exemple, a été envoyée. C'est une lettre donc envoyée à un opérateur de caméra de sécurité, donc à qui on demande d'envoyer donc les données recueillies. Et la réponse, c'est que ceci n'est pas possible car en se mettant en contact avec le côté technique, on avait donc dit que la caméra n'avait jamais fonctionné. Ici, par exemple, on dit non, malheureusement, en fait, on ne peut pas vous envoyer le film car le film a été tout simplement donc éliminé. Acceptez toutes nos excuses car une telle erreur ne va plus jamais se produire. Alors, en 2004, il y a eu un cas, en fait, qui a mené à la redéfinition de ce que cela signifie que des données personnelles. Finalement, c'est une question très intéressante et la façon légale dont c'est défini, c'est que en fait, la personne doit être au centre de l'information. Cela veut dire donc qu'une caméra de sécurité doit vraiment se focaliser sur vous. Si simplement vous êtes une personne dans la masse, vous n'êtes pas considéré comme personne à données personnelles. Donc il y a beaucoup donc d'éléments qui interviennent pour bien définir ce que c'est que des données personnelles. Et donc pour des caméras de surveillance, il y a cette précondition que la caméra doit se focaliser ou donc doit vraiment se concentrer sur vous. Et donc très souvent, lorsque vous donc demandez vos données personnelles, vous allez recevoir une réponse quasiment non existante, comme par exemple, ne vous en faites pas, on va tout simplement, ces informations ont déjà disparu, on les a déjà éliminées, ou on est sur le point donc de détruire le film. Oui, ou bien par exemple qu'on tarde très longtemps à vous envoyer la cassette vidéo. Une autre réponse qui fut ainsi envoyée fut que donc une cassette vidéo avec le film serait un effort donc disproportionnel par rapport à la demande car c'est quelque chose en fait qui aurait pris beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps. Mais donc, de nouveau, on peut se poser la question de savoir c'est quoi un effort raisonnable, c'est quoi un effort proportionnel. Et donc, l'explication fut mentionnée, bien sûr, dans la lettre. Mais donc, lorsque finalement on a donc envoyé le film partout où une identification était possible, eh bien, on a tout simplement coupé, par exemple, des feuilles qui étaient coupées, mais parfois on oubliait quelque chose. comme par exemple une lettre qui avait été tout simplement gardée, alors que normalement, voilà, alors que malheureusement, en fait, on aurait dû également donc enlever cette lettre, mais malheureusement, on a oublié de l'enlever. Donc ici, on dit que qu'elle aurait voulu donc arrêter de travailler comme. Mais vous voyez donc qu'il y a des mots clés qui sont en V. Alors, 5 ans plus tard, j'ai décidé donc d'inverser le processus, de ne plus suivre mon script et tout simplement de regarder en fait toutes les réponses que j'avais reçues et essayer de voir en fait s'il y avait une ligne là-dedans ou pas, parce que finalement en fait je n'avais pas de contrôle sur les caméras, et d'essayer donc de voir si une ligne pouvait être constituée. Donc là, dans cette partie, donc vous allez voir que donc différentes parties donc du film, vous allez voir, sont plutôt des parties documentaires, d'autres ont été rendues assez fictives. Et puis vous allez voir également qu'il y a une partie du film qui me montre tout simplement dans ma vie quotidienne, je me balade, je rentre. Vous allez voir donc qu'il y a différents niveaux dans le film, partie documentaire réaliste, partie fictive et partie tout simplement moi dans ma vie quotidienne.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ces explications et on va regarder le film, il dure un quart d'heure. Nee, in het begin stond ze blijkbaar nog niet.
Dat was beter te doen dan die insecten.
Ja, zo is dat gisteren. Ik denk dat het gelopen is. Dat is dat. Maar ik dacht dat het wel geweest was, want ik dacht dat ik veel meer leven heb. Dat precies.
Vous pouvez les questions donc maintenant. En fait, c'est pour, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser après le film. Le problème, c'est si vous voulez les interpréter, il faut le faire maintenant, parce que les interprètes vont partir pendant le film. Mais donc, voilà, vous pouvez encore garder les remarques pour tout à l'heure. On aura encore l'occasion de parler après le film, pas de problème. Merci.